Radio Grand Ciel présente Histoire et mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Aujourd'hui, je reçois Geneviève Chevel, grand reporter. Elle connaît bien le monde arabe et nous pouvons découvrir avec elle des ouvrages comme Saladin, Aïcha la bien-aimée du prophète, Barbe Rousse, le maître de la Méditerranée, Les cavaliers d'Allah. Nous lui devons aussi de nombreuses biographies, je pense à Olympe de Gouges, Lucrèce Borgia, Marie Leczinska, Elisabeth Vigée-Lebrun, Eugénie de Montijo et Sainte Geneviève. Sainte Geneviève qui a été le premier maire de Paris et le roman d'amour, maintenant, de Georges Sand, aux éditions Vent d'Histoire de Boré. Geneviève Chevel, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Donc, Georges Sand, vous la connaissez bien. Et nous aussi, nous connaissons tous Georges Sand, et Noah. Mais avec vous, je peux dire que j'ai découvert une autre femme. Un écrivain, bien sûr, une mère et une grande amoureuse, en fait, qui a été toute sa vie à la recherche de l'amour absolu. Alors, pourquoi avez-vous choisi Georges Sand ?
Eh bien, c'était d'abord, c'est vrai que ce sont les éditions de Boré qui voulaient ouvrir une collection, Le Grand Amour d'eux, et on m'a dit au fond, quelle femme vous intéresserait, quelle femme voulez-vous vous attacher? J'ai cherché plusieurs et puis tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, le nom de Georges Sand m'est venu à l'esprit. Et donc j'ai dit Georges Sand, on m'a dit, mais tiens, alors j'ai dit, oui, il y a aussi Eugénie, l'impératrice, Madame Vigée-Lebrun. Non, Georges Sand, c'est parfait. Donc je me suis lancée dans Georges Sand, je n'avais pas écrit de livre sur elle encore. Et donc c'était une découverte. Alors évidemment, comme vous dites, on connaît l'écrivain. Et puis surtout, les amours. D'ailleurs, quand je me suis lancée dans ce livre, je me suis dit, le grand amour, ça va être Musset, Chopin. Il y a son mari, et puis voilà, ça s'arrêtera là. Et puis, en lisant d'abord son histoire de ma vie, et je me suis rendu compte qu'il y avait cette frustration d'amour dès l'âge de 5 ans, parce que sa mère n'a pas su l'aimer.
C'est ça.
Elle attendait un amour, enfin, elle aimait follement sa mère, surtout après la mort du père, elle est très jeune, elle a 5 ans quand elle perd son père, d'un accident de cheval, il fait une chute de cheval, dans la forêt de Nohant, justement, la belle propriété de la grand-mère. Et donc, la mère ne l'aime pas. Finalement, il y a des disputes entre la mère et la grand-mère. La mère l'abandonne, se rentre à Paris et laisse la petite fille chez sa grand-mère.
Oui.
Et donc, elle n'aime pas la grand-mère, cette vieille dame. Mais peu à peu, elle va apprendre à l'aimer. Et oui. Au fond, après, ce sera le personnage essentiel de sa vie qui va la marquer, la former dès son adolescence. Et quand elle va être là, elle va voir la mort de sa grand-mère, elle va la soigner jusqu'à la dernière minute. Et cette femme va lui raconter sa vie, va lui apporter beaucoup. Et elle le dira elle-même, tout ce que cette grand-mère lui a apporté et surtout lui a appris à avoir à l'ouverture d'esprit. Sa grand-mère était voltairienne. Oui. Donc, vous imaginez ce que cela veut dire. Et pour cette époque, sa grand-mère qui avait vécu la monarchie, la fin du 18e, qui était partie pour la Révolution, qui avait vécu la Révolution aussi. Donc, c'était une aventure extraordinaire. Et pour Georges Sand, qui avait déjà une imagination galopante,
Elle n'était pas Georges Sand. À cette époque-là.
Non, c'était Aurore.
Aurore Dupin.
Aurore Dupin.
Et cette petite fille, quand elle va voir sa grand-mère mourir, ça va être pour elle une horreur.
Ben oui, tout d'un coup, elle sent, c'est le vide, il n'y a plus personne, et elle se retrouve toute seule dans ce manoir. Mais la dernière année, avant la mort, c'est elle qui faisait tourner le manoir, qui s'occupait des domestiques, du régisseur et tout cela. Donc le régisseur qui avait été le précepteur de son père et qui a été aussi son précepteur sous la directive de la grand-mère, s'est pris d'affection pour cette petite Aurore qui était vraiment intelligente et brillante et lui apprend... Non seulement, bien sûr, la lecture, à discuter, enfin, voir la lecture, les mathématiques et tout, mais il lui apprend aussi les sciences naturelles. Il l'emmène dans la forêt pour lui montrer les plantes, les racines, les fleurs, les différentes plantes, et puis alors le pouvoir des plantes, les plantes médicinales. Et puis le potager, les légumes. Donc elle est une fille de la terre, une berrichonne, une fille de une enfant de la terre, et elle apprend, elle a cet amour, elle aura cet amour passion pour la terre toute sa vie jusqu'à la fin, après les confitures et les plats qu'elle organisait et les ragoûts qu'elle faisait pour tous ses invités. Et donc à côté, il y avait sa grand-mère à qui elle faisait la lecture, qui lui demandait certaines lectures et qui lui apprenait à avoir un esprit analytique sur les textes de Voltaire, de Locke, enfin, lui a fait lire les grands philosophes, enfin, tout le monde. Et à 17 ans, elle était déjà d'une culture, elle avait une érudition extraordinaire pour une jeune fille de 17 ans de cette époque.
Oui. Alors, effectivement, sa grand-mère va compter, comme vous le dites, beaucoup, alors que sa mère, pour elle, ça va être dramatique. Alors peut-être parlons aussi de sa mère.
Alors sa mère, bon, c'est une petite, c'est une femme du peuple, dirons-nous, qui avait eu quelques aventures. Le père l'avait, monsieur, enfin le Dupin, le père d'Aurore. L'avait connue quand il était à l'armée. Elle était la petite amie de quelques officiers ou d'un général, je ne sais plus. Enfin, finalement, il y a eu le coup de foudre entre les deux. Il s'est beaucoup attaché à cette femme et il lui avait fait un fils d'abord. Et puis, il y a eu Aurore. Et le fils, d'ailleurs, est mort à l'âge de 2 ou 3 ans. Donc, Aurore s'est retrouvée seule. Et c'était une fille qui, vous voyez, une fille un peu légère, simple, du peuple, et qui cousait très bien, et qui va ensuite, d'ailleurs, quand elle va retourner à Paris, après la mort de son mari, elle va recevoir une pension de veuve, et elle va arrondir ses fins de mois en faisant des travaux de couture. Elle était très habile, elle connaissait bien la mode, elle avait beaucoup de goût, et d'ailleurs, quand elle était à Nohant, la grand-mère ne l'aimait pas parce qu'il y avait ce côté populaire, était tout de même admirative, appréciait le goût de cette femme pour la mode, sa façon de s'habiller. Avec 3 fois rien, elle faisait un chapeau merveilleux, qui avait beaucoup d'allure, beaucoup d'esprit. Elle savait très bien agencer une robe.
Ce qui va marquer aussi beaucoup Aurore.
Ce qui marquera Aurore. Quand sa mère s'en va, elle préfère les salopettes des gamins du village et elle court dans la boue en sabots, si bien que la grand-mère va l'obliger à porter des jolies robes et à marcher avec des jolis souliers et à être une demoiselle, savoir se tenir à table, savoir s'asseoir, savoir marcher avec élégance comme à la cour de Versailles. Enfin donc, il y a certains moments où elle n'en peut plus. Et finalement, il faut aussi son éducation. La grand-mère se rend compte qu'à partir de 12 ans, 13 ans, on la met au couvent, à Paris. Et c'est comme ça qu'avec les religieuses, elle va avoir une éducation religieuse qui, au départ, ne l'attache pas.
Elle lisait les évangiles, quand même.
Elle lisait les évangiles, elle lisait en latin, donc il y avait toute cette culture latine. Finalement, il y a eu un moment où justement, elle était tellement en quête d'amour, au fond, son premier amour va être Dieu.
C'est ça.
Parce qu'elle croit un beau jour dans la chapelle qu'elle est touchée par la grâce.
Voilà. Oui.
Et elle a cette espèce d'émotion très vive qui l'emporte, comme un feu dévorant.
Oui.
Et où elle tombe d'ailleurs sur le carrelage en adoration, sur le carrelage de la chapelle devant le crucifix. Et après, elle se met à faire des retraites, des jeûnes. Elle demande qu'on lui fasse faire toutes les corvées les plus pénibles, car elle veut, faire pénitence, s'amender. Et les religieux. Puis elle dit même qu'elle veut entrer au couvent un jour, qu'elle sera religieuse, puisque Dieu l'aime, et qu'elle veut aimer Dieu autant qu'il l'aime.
En fait, elle va tout le temps être à la recherche de l'amour.
Elle veut être aimée.
Voilà.
Et aimer, tout d'un coup, elle a des coups de foudre, bien sûr, mais elle veut être aimée. Et alors, les religieuses lui disent, elles sont inquiètes parce qu'elles se rendent compte que c'est un petit coup de tête comme ça qui arrive souvent à des jeunes filles au couvent, mais ça ne dure pas. Et on prévient quand même la grand-mère. Et donc elle a 16 ans, et la grand-mère vient vite la chercher, et la ramène à Nohant, et se dit, il est temps de la marier. Alors, évidemment, les jeunes filles de 16 ans, de petite aristocratie de province, elle a une toute petite dot qui la rend intéressante, parce que le manoir de Nohant, ce n'est rien, le domaine de Nohant, ce n'est pas rien, mais il y a cette ascendance populaire, si vous voulez,
par sa mère.
Oui. Donc, quelque part, l'homme qui l'épousera, ce sera tout de même une petite mésalliance. Alors, on fermera les yeux sur cette histoire, sur la mère, mais puisqu'il y a le manoir et les terres.
C'est ça.
Alors, on la promet à qui ? C'est pas un jeune homme de grande famille, tout ça. Et ce ne sont que des veufs de 50 ans minimum, anciens officiers ou gentilhommes de province. Et c'est comme ça qu'un jour, un monsieur vient, il est balafré, ancien officier et tout. Elle a tellement peur qu'elle se cache et elle dit à sa grand-mère, je vous en prie, ne me donnez pas un homme comme ça. Pas maintenant, on peut attendre. Alors la grand-mère a peur de ce chagrin et elle la ramène à Nohant. Et puis c'est là qu'elle va tomber malade. Et puis petit à petit, on ne présente plus de monsieur. Mais elle avait tout de même... Ou elle avait demandé à son... Parce qu'elle-même avait épousé un grand fermier général de l'époque, enfin de la fin du XVIIIe siècle, de la cour de Versailles, d'avant la Révolution. Et elle avait eu un fils avec lui. Et ce fils... Non, c'est lui qui avait eu un fils... d'un précédent mariage, et donc le fils s'était marié, avait un château au bord de la Loire, et je crois que c'était Chenonceau, et donc elle avait demandé dans son testament que ce fils soit le tuteur de Aurore,
oui.
Et qu'il l'emmène dans son château, l'élève avec ses filles, et lui trouve un mari. Et là-dessus, la mère a refusé ce tutorat, a repris sa fille en disant « j'ai mes droits de mère, on ne peut pas les piétiner », et donc prend sa fille à Paris, mais ça ne marche pas, elles ne s'entendent pas, il y a un hiatus.
Il y a presque une aversion entre la mère et la fille.
Une aversion. Aurore aime sa mère, fait tout pour elle, pour lui être agréable, elle voit bien qu'elle est ce qu'on appelle aujourd'hui une personne, vous savez, elle est un petit tantôt de bonne humeur, et puis tout d'un coup, d'une minute à l'autre, elle devient neurasthénique. Enfin, elle se rend compte que sa mère, elle est bipolaire, voilà, que sa mère est malade, et elle a une espèce de talent, enfin si vous voulez, de don d'être infirmière. Au fond, elle est née pour être infirmière, donc elle s'occupe d'elle. Dès que quelqu'un souffre, elle veut s'occuper de sa personne.
C'est ce qu'elle a fait avec les
c'est ce qu'elle a fait avec tous ces hommes.
Oui.
Et finalement, donc, la mère l'emmène chez des gens qui ont connu son père. Là, elle va rencontrer chez ses anciens, enfin lui officier, toujours il y a beaucoup d'officiers qui viennent de l'école d'officiers là dans la banlieue de Paris, et finalement elle rencontre là le baron du Deffand, le jeune du Deffand, qui vient avec tous les officiers comme ça, il rencontre cette jolie jeune fille qui a de la conversation, qui joue, qui est très amusante, et ils sont là, sont comme des copains. Et alors il y a l'amitié, des amitiés de jeu et tout ça. Et puis, parce qu'elle n'est pas amoureuse de lui, mais ils s'entendent bien. Ils s'entendent bien sur le jeu, sur la table et tout ça. Enfin, pas tellement les lectures, parce que, mais enfin, comme on joue beaucoup, la lecture n'entre pas encore en ligne de compte. Et puis finalement, ils se marient. Elle trouve que c'est très bien d'épouser ce garçon, qu'il est beau. Il est le fils naturel du baron du Deffand, qui a des propriétés du côté de Tarbes, entre Pau et Tarbes. Et d'ailleurs, ils vont les voir, tout ça, tout se passe très bien. Puis un beau jour, quand elle revient à Nohant, elle reprend, c'est sa maison.
Mais voilà.
Son mari devient le régisseur, s'occupe des terres. Et puis elle se rend compte très vite qu'il n'a pas de goût pour la lecture, voilà. Qu'il n'aime pas tellement la musique. Quand elle se met au piano, il trouve qu'elle fait du bruit. Il n'aime pas, à un moment, elle lui fait lire les pensées de Pascal pour lui faire plaisir, mais à la troisième page, le livre tombe. Enfin, il aime bien boire et il aime tous les copains chasseurs, les voisins de campagne avec qui il va chasser et on boit après la chasse. Et ça, c'est le genre d'activité qui ne plaît pas. Genre. Donc peu à peu, la déception s'installe. Et puis, voilà, au fil du temps, ils font un voyage dans les Pyrénées. Elle a un premier amour platonique.
Oui.
Avec un jeune avocat de Bordeaux. Mais enfin, bon, il y a un échange, une correspondance très, très, très fouillée, très, très fournie. Et puis, bon, finalement, du Defant est jaloux. Et puis, elle revient à Nohant, et c'est là qu'elle va rencontrer Jules Sandeau.
Voilà. Ben, si vous voulez bien, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Geneviève Chevel et nous évoquons Georges Sand. Alors justement, nous en étions à Jules Sandeau. Alors, que voulez-vous nous dire à ce sujet ?
Alors, c'est quand elle revient, donc à Nohant, après tous ses voyages, elle sait que son mari, bon, c'est le mari, le compagnon, mais ça n'est pas l'amour de sa vie, qu'il n'est pas le partenaire idéal. Et voilà qu'elle se dit qu'elle va partir. L'idée du divorce, de la séparation, germe dans sa tête, mais il faut qu'elle se trouve un travail. Et plus grand des hasards, au milieu de sa bande de copains berrichons, tous ses voisins de campagne, ils sortent, organisent des fêtes, elle rencontre le Jules Sandeau, qui est un jeune homme charmant, beau, des beaux cheveux blonds, et qui écrit. Et alors, elle est fascinée, parce qu'elle écrit, elle, des petites choses, des petits portraits, des petits bouts, elle n'en est pas sûre. Et elle cache ça sous son oreiller, elle a même l'ébauche d'un petit roman. Et alors, elle voit qu'il écrit et elle lui montre, il lui dit que c'est bien, alors ils font des choses ensemble. Et quand il part, parce que les vacances terminées, il rentre à Paris pour continuer ses études. Et là, tout d'un coup, elle prend la décision, elle part. Et elle annonce à son mari, je pars. Alors, 3 mois Paris, 3 mois Nohant, 3 mois Paris, 3 mois Nohant. D'après le contrat de mariage, vous devez me donner telle somme, c'est mon revenu personnel, et vous gardez les enfants, et voilà. Et je veux apprendre l'écriture.
Oui, qu'elle a eu 2 enfants.
Elle a eu 2 enfants avec du Defant. Et là-dessus, le mari est étonné. Il pense que c'est une lubie de sa femme. Avec le peu d'argent qu'elle a, elle ne pourra jamais tenir un train de vie à Paris. Bon, finalement, elle va à Paris. Elle vit dans une soupente tout de même quai Malaquais. Et donc, c'est pas si mal que ça. Une petite chambre, vous voyez, sous les toits, avec Jules Sandeau. Ils trouvent, par le plus grand des hasards, ils sont un journaliste les prend qui forme les journalistes du Figaro.
Oui.
Donc, ils entrent dans l'équipe du Figaro. On apprend l'écriture journalistique rapide, la dépêche, vous voyez, il faut les faits. Et tout de suite, ce journaliste lui comprend, c'est un berrichon aussi, il comprend qu'il s'appelle Latouche. Et il voit tout de suite qu'elle a du talent, qu'elle sait écrire, mais qu'il faut la freiner, parce que ce sont des romans fleuves, elle écrit. Et on verra par la suite, d'ailleurs. C'est comme ça qu'elle arrive. Elle va écrire son premier roman avec Jules, donc les 2 signatures.
D'où le nom.
C'est d'abord sous la signature de Jules Sand. Oui. Jules Sand.
Oui.
Lui, il s'appelle Sandeau, mais on met Jules Sand. Et ce roman a un certain succès. Et ensuite, lui s'en contente. Il va en vacances, il se sépare. Elle écrit son roman toute seule à Nohant. Elle revient et ce sera son tout premier ouvrage.
Qu'elle signe justement là.
Et là, quand on veut signer le nom de l'auteur, elle ne peut pas signer. Alors, l'éditeur veut garder Sand puisque le premier livre a marché. Et pour le prénom, eh bien, on ne mettra pas J.
J, mais G.
On met G. Et les gens ne savent pas si c'est Georges.
Georges sans S,
ça fait anglais. Sand, on garde le nom qui a eu du succès. Donc, G. Sand.
Et c'est aussi à ce moment-là qu'elle va s'habiller en homme.
Et elle est à Paris, elle se rend compte qu'elle n'a pas assez d'argent pour acheter les robes qu'il faut, parce qu'avec la boue et tout ça, qu'il faut les petits souliers fins et tout. Alors, elle s'habille en homme parce que, on n'a pas besoin de se changer tout le temps, il suffit de changer de chemise et des bottes. Les bottes, c'est solide, ça tient le coup dans les fossés et partout et dans les caniveaux. Et puis en homme, on passe partout et elle peut au théâtre aller à l'orchestre, au parterre, avec les hommes, alors que les femmes sont obligées d'aller au balcon, avec des robes et des chapeaux et des tralala.
Ouais.
Donc, elle trouve que c'est beaucoup plus simple, elle est mince comme un fil, elle a l'air d'un petit garçon, et comme ça, elle peut les suivre partout, dans les galeries d'exposition, les cafés, les restaurants, enfin partout. On lui pose pas de problème, ce n'est pas une femme au milieu des hommes, c'est un jeune homme au milieu des autres jeunes hommes. Et puis c'est comme cela qu'elle va rencontrer, elle va écrire son premier roman, Lélia, et ensuite, Indiana, c'est le premier roman qui a un succès fou. Du jour au lendemain, c'est Françoise Sagan avec Bonjour Tristesse, et après cela, elle écrira Lélia, qui est un livre beaucoup plus sulfureux, avec des amours un peu de femmes. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu l'homosexuel. Je ne sais plus si elle veut être un homme ou une femme, si elle aime les hommes ou les femmes. Il faut dire qu'à ce moment-là, elle rencontre une grande actrice là, et il y a une histoire d'amour. On ne sait pas si c'est platonique ou si c'est allé jusqu'au bout. Et puis, elle va rencontrer... Là, il y a des scandales sur elle, et c'est à ce moment-là qu'elle rencontre Musset, parce qu'elle est immédiatement aussi engagée, non seulement elle écrit des romans, mais c'est la Revue de Paris qui la prend, et il y a toute une pléiade d'auteurs qui écrit dans la Revue de Paris, et le directeur organise des dîners d'auteurs, et dans ce dîner, elle rencontre Musset.
Voilà.
Là, Musset, c'est une aventure publicitaire. Je vais faire court, parce qu'on connaît les amours, elle et lui et tout ça. Et pour elle, comme pour lui, c'est une aventure publique. Ils sont tous les deux en recherche de public, de notoriété, pour vendre et vendre pour gagner de l'argent.
Lui, les poésies... C'est son souci à elle d'avoir de l'argent.
Parce qu'il faut faire tourner Nohant, qu'elle a deux enfants, et qu'elle veut petit à petit reprendre ses enfants et les avoir, en avoir la responsabilité totale. Parce que pour le moment, c'est une séparation avec Dudefant, mais elle a bien dans la tête de, un jour, arriver au divorce, séparation totale, pour avoir sa totale liberté d'action. Et responsabilité totale de ses enfants. Donc, avec Musset, opération publicitaire, ils vont à Venise, le voyage à Venise et tout ça. Ils tombent malades, on connaît toute l'histoire, tout ça. Et elle revient.
Enfin, elle le soigne.
Oui, elle le soigne. Et puis, quand il est bien, il faut dire qu'en le soignant, elle tombe amoureuse du docteur, du médecin italien.
Qui reviendra avec elle.
Et qui, lui, Musset, rentre à Paris. Elle reste chez l'italien. Pourquoi ? C'était commode. Tout d'un coup, elle n'a plus d'argent parce qu'elle a tout dépensé avec Musset pour l'hôtel d'Agnelli et tout ça, qui coûtait cher tout de même. Et elle vit chez l'Italien, qui l'héberge, la nourrit. Du coup, elle le ramène à Paris, mais parce que c'est encore la publicité. Mais c'est extraordinaire, Musset dit, voyez, elle m'a quitté à Venise, mais maintenant elle revient avec son amant, l'Italien. Alors, pour la publicité, on dit que l'Italien est un comte, qu'il est beau, qu'il a des une fortune, un château. On monte un personnage digne de George Sand, de la folie. Comment George Sand a-t-elle pu quitter Musset? Il faut que ce soit un Italien absolument extraordinaire. Bon, c'est ce qu'elle fait. Et puis, évidemment, lui, au cours d'un dîner, dit la vérité. « Non, non, je ne suis qu'un petit médecin. » Et tout, alors c'est fini, terminé. On le renvoie.
Oh, en Italie.
Bien. Et puis après, elle va rencontrer Chopin. Voilà. Et alors là, Chopin, elle se met sous le piano à quatre pattes pour mieux entendre la musique. Elle est complètement subjuguée, sublimée, tout ça.
Mais lui aussi.
Oui, parce que c'est une musicologue extraordinaire.
Oui.
Et qu'il en a besoin, car c'est la seule qui peut lui relever les erreurs dans les compositions quand il joue, s'il a le ton, s'il a le toucher qu'il faut et tout cela, l'interprétation, non seulement la composition mais aussi l'interprétation, elle juge tout. Et là-dessus, il tombe malade, elle l'emmène à Majorque, on connaît l'histoire, et revient, elle rompt avec Chopin, va tout d'un coup tomber sur l'avocat Michel de Bourges, qui s'occupe de du divorce, du jugement en divorce, va plaider le divorce et lui fait de la faire gagner. Et là, cet homme est un orateur extraordinaire, enfin, un Dupond-Moretti
voilà.
De l'époque, vous voyez.
Vraiment,
on imagine Dupond-Moretti.
On ne peut pas ne pas y penser voilà. En lisant.
Et une faconde extraordinaire, puis alors, au bout d'un moment, lui, c'est un homme à femme. Elle devient un petit peu emmerdante, quoi. Et, excuse du mot, mais voilà, certains hommes disent que les femmes sont des emmerdeuses, il y a les emmerdeuses et les emmerdantes. Et donc, il veut se rompre, il rompt, elle est complètement ruinée en elle-même.
Il était malade aussi.
Oui, lui aussi était malade, enfin bon.
Elle l'a soigné aussi.
Oui, elle les a tous soignés.
Oui.
Et c'est là que, à Nohant, où elle, vraiment, elle soigne sa tristesse, sa solitude. Tout d'un coup, à Nohant même, il y a un copain de son fils, qui a l'âge de son fils, qui est sculpteur, et qui fait tout dans l'ombre, sous le silence. Et lui aussi est fasciné par cette femme, qui est fascinante.
Puis les hommes sont fascinés.
Qui a 17 ans de plus que lui, puisqu'elle a l'âge du fils. Ils s'occupent des marionnettes et tout. Enfin, ils ont les mêmes intérêts. Il est artiste puisqu'il est sculpteur. Il gagne de l'argent avec ses sculptures. Et finalement, il va savoir comment la séduire. C'est en devenant indispensable. Et ça va devenir... Ils vont vivre ensemble pendant 15 ans. Il va être malade. C'est elle qui va le soigner. Et il va mourir dans ses bras. Et finalement, elle dira à sa mort, « J'étais lui, il était moi. » Il était l'homme de ma vie. Et pourquoi il était l'homme de sa vie? Parce que il s'est jamais imposé à elle. Au contraire, il devançait ses désirs. C'était lui qui, le soir, savait que tous les soirs à la même heure, elle allait s'asseoir sur son petit bureau, la pile de papier, l'encrier, la plume, le verre d'eau. Quand elle arrivait, tout était prêt, elle n'avait rien à dire. Quand elle avait besoin de quoi que ce soit, alors il était comme une souris. Il lui écrivait des petits mots, des petites billets comme ça pour lui dire « Je fais ceci, je fais cela, voulez-vous ceci, voulez-vous cela ?» Et il tenait un journal à deux mains, c'est-à-dire que chacun avait sa page, l'un la page de gauche, l'autre la page de droite, et chaque jour écrivait ce qu'il pensait ou lui posait des questions et tout, et l'autre répondait à côté. Et c'est comme ça qu'il connaissait la pensée de l'autre. Donc il n'y avait pas de dispute et tout était parfait.
Eh bien, un grand merci Geneviève Chevel. Je crois que tous nos auditeurs auront à cœur de lire votre ouvrage, le roman d'amour de George Sand, ou Vent d'histoire de Boré. Merci à vous.